France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Est-ce la fin de l'indifférence dans les transports en commun ? Les passagers sont de plus en plus nombreux à réagir en cas de violence, notamment violence sexuelle. C'est l'un des enseignements de la dernière étude de l'Observatoire national qui signale aussi une explosion des plaintes ces 10 dernières années. À suivre encore le procès du suicide de la jeune Evaëlle il y a 5 ans dans le Val d'Oise. Il s'est ouvert ce matin. Son ancienne prof de français est poursuivie pour harcèlement. La Syrie, la minorité alaouite prise pour cible ces derniers jours et un test pour le nouveau pouvoir de Damas qui prétend protéger les minorités. Nous serons également aux États-Unis dans les prochaines minutes. Les électeurs de Trump approuvent manifestement la politique de leur champion. Nous irons aux urgences de Valenciennes où un outil d'intelligence artificielle permet de réduire l'attente. Et puis nous parlerons de l'opération séduction de LVMH en Seine-Saint-Denis.
C'est compliqué quand on n'a pas de contact. En général, on va toujours dire qu'il n'y a que les gens de Paris qui vont aller là-bas, et ben non, moi je veux montrer que c'est pas parce que je viens du 93 que genre je pourrais pas être dans ce milieu.
Ce sont des collégiens et lycéens du département qui ont pu rencontrer des représentants de cette marque. À partir de 13h30, on parle de la Roumanie, cas d'école de l'influence de la Russie en Europe. L'élection présidentielle de décembre dernier a même été annulée. Notre invité rentre à peine de Roumanie. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, une semaine en prison.
Ce matin, nous avions 465 personnes hébergées pour un total d'à peu près 216 cellules, donc à peu près 215% de taux d'occupation.
Nous passons notre semaine dans la maison d'arrêt d'Angers. 13h50, c'est la France. Notre linguiste Mathieu Avanzi et les mots du rugby après la balade irlandaise des Bleus samedi. Nous verrons aussi que le rugby français se fâche tout rouge aujourd'hui après la grave blessure d'Antoine Dupont. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Noé Préchoff, Catherine Ribeiro et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les trois quarts ont moins de 30 ans. La moitié d'entre elles voyagent en région parisienne. Voilà le profil type des victimes de violences sexuelles dans les transports en commun en France. L'Observatoire national des violences faites aux femmes publie une étude ce matin qui nous apprend que ces violences ont augmenté, plus 86% en 10 ans. Tout en précisant que les femmes victimes aujourd'hui portent davantage plainte qu'à l'époque. Autre évolution marquante, la réaction des témoins. 23% des victimes disent aujourd'hui avoir été aidées au moment de leur agression. C'est 13 points de plus qu'il y a 10 ans. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour.
Vous êtes allé ce matin à la rencontre de voyageurs à Paris.
Oui, et on a notamment rencontré Gaëtan, la trentaine, témoin d'une agression. Il n'a pas hésité à réagir.
Ben moi c'était dans le métro et en fait un monsieur qui était en train de se servir des flashs d'alcool déjà sur le quai du métro, donc déjà bien. Et à la fin il dit à deux petites jeunes, je sais pas, devait avoir peut-être 16-17 ans, et ça vous dit les filles quand on sort je vous viole? Et là j'ai dit ouais bah non tant pis. Tant pis pour les us et coutumes, tu vas prendre ma main dans la tronche quoi.
Et c'est ce qui s'est passé, il en est venu aux mains. Mais sans en arriver là, cette parisienne elle le dit aussi, elle n'hésiterait pas à intervenir.
Je fais rien pour provoquer, mais si je vois quelqu'un avec quelqu'un, je réagis. Quitte à m'en prendre une claque, c'est pas grave.
De l'aide, justement, ces Parisiennes rencontrées devant le métro auraient aimé en recevoir le jour de leur agression quand un homme a par exemple forcé Audrey à lui donner son numéro de téléphone.
Le fait que quand on donne pas notre numéro, tout de suite on soit insulté. De temps en temps, quand le mec fait 3 têtes de plus que nous, on n'a pas trop le choix quoi. J'ai reçu des messages assez violents, genre tu vas voir ce que je vais te faire, machin, petite salope, ou un truc comme ça, voilà.
Il y en a un, une fois, il a mis son téléphone et il a écrit un truc du genre... suce-moi un truc comme ça, et il a mis son téléphone là comme ça, et j'étais devant
sur
lui.
Sur son sexe?
Oui, comme ça. Et justement, ce jour-là, j'étais choquée parce qu'il y avait un couple à côté de moi, et il n'a pas réagi. Une maman à côté de moi, elle n'a rien vu non plus, elle n'a rien fait.
Et pourtant, selon l'enquête, s'asseoir à côté d'un couple, s'asseoir à côté d'une femme ou encore d'une famille, ce sont des techniques d'évitement adoptées par 93% des femmes.
Ouais, il y a encore des progrès à faire. Je rappelle le numéro de téléphone en cas d'agression, le 3117. Merci Lou Bourdi. Le tribunal de Pontoise, lui, cherche à comprendre depuis ce matin pourquoi la petite Evaëlle, 11 ans, s'est donné la mort en juin 2019 dans le Val d'Oise et dans quelle mesure son ex-prof de français est responsable. Elle est jugée pour harcèlement sur mineurs, sur cette jeune fille, mais aussi sur deux autres collégiens. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Inter. Charlotte, toute la famille d'Evaëlle est présente.
Oui, les parents de la fillette décédée, son frère aîné, ses grands-parents se serrent sur le banc des parties civiles. À leur côté, sur ce même banc du tribunal de Pontoise, celui que, du fait de sa minorité, nous appellerons Jonathan. Et sa maman, Jonathan, a lui aussi été un élève de la professeure de français mise en cause. Lui aussi harcelé, a-t-il dénoncé. Juste devant eux, à la barre, l'enseignante est tout d'abord revenue brièvement sur sa carrière, sa licence en lettres classiques, son amour du métier, ses 30 ans d'exercice. J'ai peut-être vu passer 4000 élèves, dit-elle d'une voix basse. Ses évaluations aussi. Professeur agréable, enseignement de grande qualité, lit la présidente. Vous avez manifestement donné satisfaction. La prévenue hoche la tête. Mais ici, on n'est pas en train de parler de cours de français et de programmes scolaires, relève l'avocate de la famille d'Evaël, qui rappelle ses témoignages d'autres professeurs qui qualifient l'enseignante de blessante, cassante dans sa manière de s'adresser aux élèves, comme ce jour où il lui est reproché de parler à un collégien comme à un chien et qu'elle aurait rétorqué « Je préfère avoir un chien que des élèves ». Droite comme un i dans son tailleur bleu marine, l'enseignante ne bronche pas. Elle sera entendue sur ces faits dans l'après-midi.
Charlotte Piret à Pontoise pour Inter avec les moyens techniques de Virginie Lorda. Là, les faits sont beaucoup plus anciens et souvent prescrits. Dans les établissements scolaires catholiques, les anciens élèves dénoncent les violences qu'ils ont subies. Cela a commencé dans le Béarn, à Notre-Dame de Bétarame, et cela se poursuit partout en France. Ainsi, au relais Kéruon, près de Brest, 63 élèves de l'ancien collège catholique Saint-Pierre préparent un signalement collectif au procureur de la République. Deux d'entre eux ont même créé un collectif, dont Frédéric, la soixantaine aujourd'hui. Simon Chenot, vous avez pu vous entretenir avec lui.
Ces années collège, Frédéric, 64 ans aujourd'hui, les a passées au relais Kéruon.
Des années de terreur pendant 3 ans, entre la 5e et la 3e.
Mais juste avant, il était scolarisé dans un prestigieux établissement du Béarn.
Oui, c'est vrai, j'ai pas eu de chance, mais bon, c'est comme ça.
Oui, à Notre-Dame de Bétarame, où il a porté plainte pour agression sexuelle contre un prêtre.
C'est une école qui est assez immense. C'est un grand collège, hein. Ça ressemble un petit peu à Poudlard, si vous voulez, en fait, en miniature. Bétarame, c'est un endroit silencieux. Il n'y a pas de bruit.
Et les violences, ils sont infligés par les pions surtout, alors qu'en Nord-Finistère, au relais, c'est très bruyant, il y a 50 élèves par classe et les violences viennent...
Une bande de psychopathes.
Des enseignants, dit-il.
Une pédagogie basée sur la violence, sur les coups.
L'ancien commercial à la retraite, désormais basé dans le Loiret, a lancé, avec un autre élève du relais, un appel à témoignage. Les faits sont prescrits.
Il faudra aussi que l'État explique la raison pour laquelle ces établissements comme Saint-Pierre n'ont pas été contrôlés. Ce sont autant de questions qu'on se pose et d'être déclaré victime, d'être reconnu comme victime, ce sera déjà un grand pas.
Sur notre antenne, le directeur diocésain de l'enseignement catholique du Finistère condamne ces violences du passé. J'ignorais leur importance et leur violence, dit Christophe Geffard.
Reportage ici, Breizizel. La prise en charge des victimes et des patients à l'hôpital qui évolue sous l'effet notamment de l'intelligence artificielle. Cela se passe depuis 2 mois maintenant aux urgences de l'hôpital de Valenciennes et c'est unique en France. L'hôpital propose sur son site, via l'intelligence artificielle, un outil qui permet aux patients de connaître en temps réel l'attente, mais aussi l'heure estimée de leur prise en charge. Alors ce dispositif n'est pas encore très connu, mais il produit déjà des effets dans la salle d'accueil, comme l'a constaté Louise Adélaïde Boinard.
L'interface est simple d'utilisation, on y voit le temps de prise en charge, l'affluence en direct et dans les heures à venir. Le but, fluidifier les urgences, comme l'explique le docteur Antoine Maisonneuve, le chef du service.
Ça va vous permettre de vous projeter et puis ça évitera aussi de limiter les appels téléphoniques parce que quand vous avez 100 patients aux urgences et qu'il y a 4, 5, 6 coups de fil par patient, ça génère des interruptions de tâches pour les infirmiers et donc ça ralentit la prise en soins.
Le seul problème, c'est que les patients ne connaissent pas encore très bien cet outil. Comme Francine, assise face à l'écran qui affiche les données dans la salle.
Comme je vois pas bien clair, j'ai pas approfondi la chose.
Pour elle, c'est une bonne initiative, même si finalement, ça n'écourte pas son attente.
On n'a pas le choix. Quand on fait un urgence, on sait qu'on va pas passer à la seconde. Hein.
Et pourtant, cette intelligence artificielle est bien utile pour Karine, chargée d'accueil.
Les gens ne viennent plus systématiquement nous voir toutes les demi-heures ou toutes les heures. Nous, déjà, on leur dit, fiez-vous à l'écran, regardez, il y en a pour 3 heures minimum. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est si vous voulez vraiment attendre en salle d'attente, sachez qu'il y a autant d'attentes. Ou alors, on leur propose de rentrer chez eux et de nous appeler plus tard.
Résultat, les patients sont moins agressifs avec elle. La prochaine étape du projet, c'est un outil personnalisé pour chaque patient. Il indiquera psychiatre. Précisez-moi quelle heure auront lieu ces analyses et son heure de sortie des urgences.
Reportage ici Nord. Un important dispositif de recherche est déployé en ce moment dans le département de l'Indre pour retrouver un conducteur en fuite. Ce chauffeur est soupçonné d'être à l'origine d'un grave accident de la route hier soir sur l'autoroute A20 près d'Argenton-sur-Creuse. Il circulait à contresens, il a percuté une voiture, faisant un blessé grave, un homme de 24 ans. Près de 80 gendarmes sont à la recherche de ce conducteur.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
En Syrie, les combats contre les fidèles de Bachar al-Assad ont pris fin et avec succès. Voilà ce que dit ce matin le gouvernement après un week-end d'affrontements entre d'un côté les forces du nouveau régime islamiste, renforcées par des djihadistes, et de l'autre les anciens partisans du dictateur Bachar al-Assad, issus eux de la minorité alaouite. Mais parmi ces alaouites, un millier de civils ont aussi été massacrés, nous dit l'ONG Observatoire Syrien des Droits de l'Homme. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondante dans la région, en Turquie, à Istanbul. Marie-Pierre, ce sont les alaouites qui ont été visés par cette répression. Qui sont-ils ? C'est une minorité religieuse, ce sont des musulmans ?
Oui, ils représentent environ 10% de la population syrienne. C'est une branche du chiisme considérée comme hérétique par les factions sunnites les plus radicales. Les alaouites, c'est surtout la minorité sur laquelle s'est appuyé le clan Assad qui en est issu. Ses membres peuplaient les redoutés services de renseignement et l'appareil sécuritaire de l'ancien régime. Il y a parmi eux les responsables des pires exactions. La communauté alaouite en Syrie est associée aux crimes de ces 50 dernières années, même si son soutien était parfois contraints, et beaucoup depuis la chute de Bachar al-Assad vivaient dans la crainte de représailles.
Mais une partie de cette communauté précisément attendait beaucoup du nouveau pouvoir et des islamistes d'Ahmad al-Sharr.
Oui, des alaouites qui ont applaudi la chute du président Assad parce qu'ils ont eux aussi payé un très lourd tribut à la guerre, parce qu'ils étaient considérés pour les plus démunis comme de la chair à canon, leurs enfants enrôlés de force. J'en ai rencontré beaucoup, notamment à Latakié ou aussi à Karda, le village d'origine de Bachar, qui appelait les forces de HTS à les protéger des pillards et du risque de vengeance. Mais le pouvoir a tardé, il ne s'est pas emparé des questions de justice transitionnelle. Alors hier, Ahmad al-Sharr a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête sur les massacres de ces derniers jours contre les alaouites.
Nous demanderons des comptes fermement et sans compromis à tous ceux qui ont versé le sang de civils ou qui ont maltraité notre peuple, à toute personne qui a outrepassé les pouvoirs de l'État ou utilisé l'autorité pour atteindre ses propres objectifs. Personne ne sera au-dessus des lois. Toute personne dont les mains sont tachées du sang de Syriens sera traduite en justice le plus tôt possible.
Des magistrats qui doivent rendre leur rapport dans un mois, mais le défi est énorme. Alors que les minorités vivent de nouveau dans la terreur et que la confiance dans la capacité des autorités à les protéger est désormais brisée.
Merci Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. Cette semaine, c'est en Arabie Saoudite que doit s'écrire l'avenir de l'Ukraine. Négociateurs ukrainiens et américains s'y retrouvent et la délégation ukrainienne fait savoir ce matin qu'elle va proposer aux Russes une trêve dans les airs et en mer. Des Russes qui ne parlent ni de paix, ni de trêve et qui continuent de grignoter du terrain sur le sol ukrainien mais aussi sur le leur, puisque les Ukrainiens ont pris le contrôle il y a quelques mois de la petite province russe de Koursk. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
En direct de Moscou pour Inter. Sylvain, cette région est en train de repasser sous contrôle russe peu à peu.
Oui, l'armée russe revendique la reprise de 3 villages supplémentaires ce week-end dans la partie de la région de Koursk qui est actuellement sous contrôle ukrainien. Elle serait désormais aux portes de Soudja, l'armée russe, la principale localité contrôlée par l'armée ukrainienne. D'après certains correspondants de guerre russes, les combats auraient même déjà commencé dans cette petite ville d'un peu plus de 6000 habitants avant la guerre. Pour avancer ces derniers jours, la presse russe raconte que ces soldats sont passés par un gazoduc qui traverse le secteur. Il servait au transit du gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine, mais il est inutilisé depuis que Kiev a coupé le robinet. L'armée russe aurait donc envoyé une compagnie d'assaut dans ce tuyau d'1,40 m de diamètre sur 15 km et elle aurait ensuite pris à revers les forces ukrainiennes. L'histoire semble crédible, même si elle reste invérifiable. Surtout, néanmoins, l'avancée des forces russes est un fait acquis. Les 10 à 12 000 soldats ukrainiens dans la zone seraient maintenant menacés d'encerclement. Leur ravitaillement devient compliqué et l'arrêt des renseignements américains n'arrange rien. Le Kremlin Kremlin, quant à lui, reste prudent et ne s'avance pas sur une date prochaine de victoire de ses troupes dans la région de Koursk.
Sylvain Tronchet, correspondant d'Inter en Russie, mais avec ou sans la province de Koursk dans son escarcelle, l'Ukraine aborde ses négociations dans une mauvaise passe, en raison bien sûr du changement de politique à Washington. Donald Trump a décidé de lâcher l'Ukraine pour lui imposer une paix avec la Russie à ses conditions. Alors qu'en pensent ceux qui l'ont porté à la Maison Blanche? Pour le savoir, notre envoyé spécial Camille Magnard s'est rendu dans la petite ville de Rome. C'est aux confins des États de Géorgie, d'Alabama et du Tennessee. Là-bas, on a voté Trump à plus de 70%.
Un verset de la Bible gravé sur la vitrine, un t-shirt anti-immigration fièrement arboré par le patron, au moins dans la boutique de vêtements tenue par Todd sur la rue principale. On sait tout de suite où l'on met les pieds. Ici, on soutient à 100% la politique de l'America First, l'Amérique avant tout, quitte à se lancer dans une guerre commerciale avec des pays amis.
On prend en charge tellement de choses pour les autres pays. Il est temps que tout le monde prenne ses responsabilités, paye sa juste part, même le Canada, même le Mexique. Beaucoup d'Américains en ont marre de toujours payer la facture. Ce sont nos impôts et nous voulons qu'ils soient enfin bien utilisés.
Et l'on retrouve cette même idée chez Bianca, qui sort de chez le disquaire une rue plus loin. Sur la guerre en Ukraine, comme son président, elle pense qu'il faut ramener la paix à tout prix, même si ça veut dire tordre le bras au pays agressé, l'Ukraine, plutôt qu'à l'agresseur, la Russie.
De toute façon, on n'aurait jamais dû se retrouver embarqué dans cette guerre en Ukraine. Et quand bien même, la position de Trump, c'est d'arrêter cette guerre. Des centaines de milliers de vies perdues pour une guerre injustifiée de la part des deux pays.
Et puis, comme dit Bianca, si Trump a malmené Volodymyr Zelensky l'autre jour dans le bureau Oval, c'est qu'il avait un plan et ça a fonctionné. Depuis, nous explique la jeune femme, l'Europe a pris conscience que les États-Unis ne seraient pas toujours derrière elle et elle a renforcé son soutien à l'Ukraine.
Camille Magnard aux États-Unis pour Inter. Donald Trump qui a un nouveau voisin au pouvoir, le futur Premier ministre du Canada, Mark Carney, élu hier par son parti libéral. Il va succéder à Justin Trudeau. Il assure, je cite, que son pays ne fera jamais partie des États-Unis, de quelque façon que ce soit. Et ce matin, Emmanuel Macron le félicite et loue les liens entre la France et le Canada plus fort que jamais, dit le président français. Et puis cette dernière minute, en provenance de Londres, les gardes-côtes britanniques nous signalent une collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord. Pas plus de précision pour l'instant. Le dernier plan d'adaptation de la France au réchauffement climatique date de 2018. Il anticipait une hausse des températures d'ici 2050 d'1,5 à 2 degrés. Le troisième plan a été présenté ce matin et il se base désormais sur un réchauffement de 2,7 degrés. Vous l'avez compris, les prévisions se font plus alarmistes. Les conséquences sur nos activités vont donc être plus fortes que prévues. Un exemple parmi la cinquantaine de mesures retenues par la ministre Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Celle qui concerne nos écoles. Comment éviter que nos enfants ne suffoquent dans les prochaines années?
Oui, car comme les personnes âgées, ils sont plus vulnérables aux grosses chaleurs, décors mis à rude épreuve. Et comment se concentrer en classe quand il fait parfois 30 degrés? Le plan mise sur une accélération de la rénovation des bâtiments, énorme chantier, 10% sont vétustes d'après un rapport parlementaire. Il faut une meilleure isolation, des systèmes anti-canicule comme des pare-soleils sur les fenêtres, des ventilateurs au plafond, la végétalisation des cours de récréation. Le gouvernement envisage aussi de rendre obligatoire l'instauration d'une pièce climatisée dans chaque école, comme c'est le cas dans les EHPAD, avec toutes les questions pratiques que cela pose. Lors de certains pics de chaleur, certains établissements vont devoir fermer temporairement, comme pendant le Covid, les cours pourraient alors se tenir à distance. Le gouvernement incite les collectivités et les établissements scolaires à mieux anticiper, avec des rythmes de travail adaptés, pas de cours de sport en plein soleil, pas d'examen quand le thermomètre s'affole. Et pourquoi pas avancer les horaires de cours, comme cela s'est fait dans la Drôme, à Montélimar, dans trois écoles l'été dernier pour profiter de la fraîcheur du matin. Beaucoup de pistes de travail, de recommandations, mais le plan d'adaptation ne prévoit aucune mesure contraignante.
Et la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, répondra à vos questions ce soir entre 19h et 20h. Dans le téléphone sonne de Fabienne Sintès. Merci Sandy Dauphin. Pour faire face à ce changement, la France va avoir besoin de compétences. Nous pouvons les trouver chez nos étudiants, mais aussi chez les étudiants venus de l'étranger. et des étudiants internationaux. Problème, ils sont de moins en moins attirés par les universités et grandes écoles françaises. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
C'est la Cour des comptes qui le dit, qui l'écrit aujourd'hui dans son rapport sur l'attractivité de l'enseignement supérieur français. La France a régressé. Nous étions le deuxième pays d'accueil dans les années 80. Nous sommes le septième désormais. Pour quelle raison ?
Alors la France continue à attirer des étudiants internationaux venus principalement du Maghreb à 50%, d'Afrique subsaharienne ou d'Asie, mais ne progresse pas chez les étudiants anglophones, contrairement à d'autres pays comme le Canada ou l'Allemagne. Principale raison, un calendrier d'admission trop tardif. Les délais pour obtenir les visas et les titres de séjour traînent en longueur et les conditions d'accueil ne sont pas avantageuses, explique Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes.
Les procédures sont encore lentes, dès le début, même sur l'information, sur l'inscription. Or, c'est très important d'être en avance d'un marché, finalement. Pardon, parler d'utiliser ce mot, c'est un marché international assez disputé. Et de ce point de vue-là, il faut être assez précoce. Et puis ensuite, l'accueil, le logement, les visas, tout ça a besoin d'être, je crois, densifié et amélioré qualitativement.
Il faudrait, selon la Cour des comptes, revoir le système des bourses. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont exonérés de droits d'inscription. En redéployant les moyens budgétaires, la France pourrait proposer davantage de bourses d'excellence et créer des titres de séjour plus attractifs. La principale recommandation est d'associer les ministères de l'économie et du travail pour cibler certains profils, privilégier les cursus qui correspondent aux besoins de l'économie et de la recherche, notamment dans les disciplines scientifiques. L'enjeu est important. Sans les étudiants internationaux, la recherche française ne peut pas fonctionner. 36% des doctorants sont étrangers.
Sonia Princé, là aussi les questions de recrutement et cela concerne toutes les entreprises, même les plus prestigieuses. Ainsi, LVMH, l'une des grandes marques françaises du luxe, cherche à se faire connaître des jeunes Français. Le groupe vient d'organiser des salons à Paris, Lyon et Lille. Et plus étonnant, la dernière étape s'est déroulée à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. 345 collégiens et lycéens du département étaient invités, sous les yeux de Mathilde Ansker.
À 13 ans, Massilia a les yeux qui brillent devant le stand de couture. Plus tard, elle rêve d'être styliste.
C'est compliqué quand on n'a pas de contact. En général, on va toujours dire qu'il n'y a que les gens de Paris qui vont aller là-bas. Et ben non, moi je veux montrer que c'est pas parce que je viens du 93 que genre je pourrais pas être dans ce milieu.
A l'inverse, certains de ses camarades ne sont pas du tout convaincus.
C'est pas mon style et j'aime pas trop faire des trucs comme ça.
Ça m'intéresse pas le luxe, tout ça, non. C'est pas mon domaine.
Justement, le but c'est de faire découvrir ces métiers aux élèves.
Ça vous intéresse un petit peu, les métiers de la cosmétique.
Et de les inciter à oser. Pour Fouzia Elhocine, elle est professeure d'histoire à Sevran et elle est venue avec ses quatrièmes.
Pour eux, c'est un monde très lointain. D'ailleurs, quand on invite les élèves à chercher des stages, bien souvent ils restent cloisonnés dans leur petit espace. Donc du coup c'est aussi ça, l'idée un petit peu de les amener ici, de leur dire, bah voyez, ces noms de luxe que vous connaissez, vous avez complètement la possibilité d'échanger avec eux. Moi je trouve que c'est bien.
Et puis c'est aussi l'occasion de redorer l'image de la filière professionnelle.
Donc nous du coup dans la maroquinerie, ça va vraiment être le travail du cuir et fabrication des sacs.
Amir Abbas enseigne en lycée pro à Clichy-sous-Bois.
Paradoxalement, les métiers de l'artisanat qui sont très recherchés, très demandés, les élèves ne se projettent pas dedans parce que c'est dévalorisé. Or ça peut être une voie d'excellence pour une réussite professionnelle très intéressante.
D'autant plus que ces métiers recrutent, LVMH a 4200 postes à pourvoir, notamment dans la maroquinerie, la vente ou encore la joaillerie.
Mathilde Ansker, le débat fait rage depuis samedi. Y avait-il faute ou pas sur Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France de rugby, gravement blessé lors du match face à l'Irlande, après avoir été déstabilisé par un joueur irlandais. Dupont souffre d'une rupture des ligaments du genou gauche et ne reviendra pas sur les terrains avant l'automne. Alors, depuis samedi, le camp français ne décolère pas, d'autant que les Français avaient alerté avant même ce match. On va voir ça avec vous, Vincent Pellegrini. Bonjour Vincent.
Bonjour Jérôme.
Bon, d'abord, question simple. Il y avait faute ou pas samedi ?
Les avis divergent, effectivement. Certains arbitres estiment que les deux joueurs irlandais, Tadhg Byrne et Andrew Porter, avaient plaqué de façon licite Antoine Dupont. D'autres que les deux méritaient un carton rouge. Idem pour le choc à la tête subi par Pierre-Louis Barassi. L'Irlandais Calvin Nash n'a reçu pour ce geste qu'un carton jaune. Cela aurait pu lui valoir une exclusion définitive. Alors, dès le début de sa conférence de presse d'après match samedi, le sélectionneur Fabien Galthié, le visage grave, a livré son sentiment.
On est en colère. Voilà. Aujourd'hui, on veut protéger nos joueurs. Il y a des moyens qui sont mis en place, il y a des règles. On veut comprendre.
Et visiblement, Fabien Galthié n'a pas compris l'arbitrage de ce match.
C'est moins qu'on puisse dire.
Lui qui, deux jours auparavant, avait tenu ses propos qui sonnaient comme un avertissement au corps arbitral.
On a besoin d'équité. Sur le terrain, en dehors du terrain, avec l'arbitrage vidéo, on a besoin d'équité.
Voilà, Fabien Galthié est remonté contre les arbitres et cette décision du comité destination n'a pas de quoi calmer le sélectionneur. Après la rencontre de samedi, la Fédération française avait demandé que les trois joueurs irlandais dont on parlait comparaissent devant la commission de discipline du tournoi. Demande rejeté. Cela ne va pas assouplir les rapports tendus entre le 15 de France et le comité du tournoi, et plus généralement avec World Rugby, la fédération internationale. Dernier épisode en date, ces propos de Florian Grill, le président de la fédération française, dans le journal L'Équipe. Si on veut être champion du monde en 2027, on doit se faire plus respecter à World Rugby et au comité des Six Nations. Mais il ne précise pas comment il allait s'y prendre pour parvenir à ses fins.
Merci Vincent Pellegrini. L'arbitrage sera donc scruté, regardé de près samedi soir au Stade de France, France-Écosse, pour le dernier match du tournoi et une victoire éventuelle dans cette compétition si les Français s'imposent. Et une nouvelle comédie musicale qui débarque dans notre pays. Nouvelle en France uniquement, puisque ce spectacle est un classique outre-Atlantique. Compagnie, créée en 1970 par l'un des maîtres de la comédie musicale, Stephen Sondheim, à qui on doit notamment West Side Story. C'est une adaptation en français et en anglais de ce spectacle étonnant qui va nous être proposé dans les mois qui viennent. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
On parle d'une comédie musicale à concept. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire que tout tourne autour d'un personnage, Bobby, qui fête ses 35 ans quand le spectacle commence. Bobby est entouré de ses amis, des couples qui pensent qu'à cet âge, il est temps de se trouver quelqu'un. Des souvenirs défilent comme si on était dans la tête de Bobby pendant un fragment de seconde. C'est drôle, la scénographie est digne de grands opéras et surtout, ça parle de thèmes universels, comme l'expliquent Jeanne Jérôme et Sinan Bertrand qui jouent l'un des couples.
Ça traite d'un sujet qui est complètement intemporel. Love et tout ce qui va autour et les relations.
Et même, j'ajouterais, ça parle des relations dans une grande ville moderne. Ce qui était probablement un peu neuf en 69. Aujourd'hui, on voit à quel point cette problématique était juste pertinente.
Aux États-Unis, l'œuvre est culte. À sa création, elle a remporté 5 Tony Awards, l'équivalent des Molières.
L'autre particularité, Julien, c'est que 13 opéras français se sont associés pour produire ce spectacle.
Oui, sous la bannière de Génération Opéra, une association qui produit en moyenne un spectacle tous les 2 ans. C'est la première fois que c'est une comédie musicale. L'idée, selon le président de cette union, Jérôme Gay, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort.
L'opéra pâtit beaucoup des décisions parfois d'élus, de politiques et la culture en règle générale. Et effectivement, quand on est à plusieurs, on est plus fort. On donne une durée de vie supérieure au spectacle. On ne les engage pas pour quelques dates, mais pour 45, comme c'est le cas. Je pense que c'est une nécessité absolue de mutualiser nos ressources, de collaborer.
Le spectacle va donc tourner partout en France. Il achèvera son parcours dans 2 ans à Paris, au Théâtre du Châtelet.
Prochaine étape ce week-end à l'Opéra de Compiègne et puis ensuite Bordeaux, Rennes, Nice, Nancy, Avignon, encore Clermont-Ferrand. Je ne peux citer toutes les villes et tous les opéras. Merci Julien Baldacchino, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, que se passe-t-il en Roumanie, 3 mois après l'annulation de l'élection présidentielle? La justice pense avoir mis à jour une tentative de coup d'État de la part de paramilitaires. L'ombre de la Russie plane aussi sur ce pays. 01 45 24 7000 si vous voulez en savoir plus et pour toutes vos questions à notre invité. 13h45, une semaine en prison. Nous sommes à Angers. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi, notre linguiste, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, vous êtes penché sur les mots du rugby.
Et oui, aujourd'hui, on entre en mêlée, on remonte la ligne et on tente une percée côté langage. Car le rugby, c'est pas seulement des essais et des plaquages, c'est aussi une langue fleurie, imagée, parfois rude et souvent poétique.
Et nous allons aussi voyager dans nos régions grâce à vous. Et avec vous, Frédéric, un chanteur.
On va voyager, un chanteur belge, ah. Noé Preschoff, dont vient de paraître le 2e album qu'il jouera demain soir à l'Olympia à Paris. Et avec lui, nous écouterons la voix de Catherine Ribeiro avec sa reprise de la chanson De la main gauche. Magnifique chanson.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
BMW 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390€ par mois.
Offre pour BMW iX1 20M Sport, LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer, 390€ après déduction bonus écologique de 2000€. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 avril 2025, si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France 2, ce soir.
On est là toutes les quatre pour vous raconter notre histoire. On a toutes vécu la même chose. Un homme nous a violés.
4 femmes, une seule voix. Leur combat commence.
À celui qui nous a fait ça, c'est à toi d'avoir peur maintenant.
Après la nuit, votre nouvelle série événement, ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
France Inter, partenaire des Pestac UGC.
Jusqu'au 8 juin, tous les dimanches, venez découvrir ou redécouvrir 15 grands films pour petits spectateurs dans 33 cinémas UGC partout en France. Un rendez-vous familial pour faire vivre la passion du cinéma et éveiller la curiosité des enfants à partir de 4 ans. Les Aristochats, Le Voyage de Chihiro ou encore Mulan et Le Monde de Nemo. Les Pestacles UGC, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Des nuages et des averses sont au menu.
Oui, on a une perturbation qui circule de la Normandie aux frontières du Nord avec des pluies souvent faibles. Et puis ailleurs, c'est instable. Alors quelques averses, des nuages, des éclaircies souvent discrètes, un petit peu plus belles quand même du sud de la Garonne au Roussillon. Et puis c'est quand même plus menaçant du nord de la Nouvelle-Aquitaine et du sud de la Bourgogne vers le Massif central et la Méditerranée, avec un vent sensible, des averses parfois accompagnées d'orages, plus fréquentes et plus marquées d'ailleurs du Languedoc vers le sud de Rhône-Alpes, le sud des Alpes et la Côte d'Azur. Et puis on a de la neige sur les massifs du sud. Attention aux avalanches sur l'est des Pyrénées, sur le sud des Alpes. La douceur se maintient encore en ce début de semaine, 13 à 17 degrés, jusqu'à 19 au Pays Basque. Et puis demain, encore des averses, parfois fortes et orageuses sur un quart sud-est et quelques degrés de moins.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est du jamais vu en Europe. Une élection présidentielle annulée pour des soupçons de manipulation de la part d'un réseau social, en l'occurrence TikTok. Cela s'est passé en Roumanie en décembre dernier. Et depuis, le candidat d'extrême droite mis en cause, Calin Georgescu, qui est arrivé en tête du premier tour, 22%, est visé par une enquête. Et on a appris hier soir qu'il ne pourrait pas se présenter à la prochaine élection prévue au mois de mai. Cela a déclenché la colère de ses partisans, mais aussi celle du nouveau pouvoir américain qui le soutient. Alors que les enquêteurs roumains sont persuadés que ce Georgescu s'est appuyé pour influencer le scrutin en novembre dernier sur une vaste organisation parallèle, mélange d'influenceurs et de paramilitaires. Plusieurs interpellations ont d'ailleurs eu lieu la semaine dernière. Bonjour Adina Revol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous avez été porte-parole de la Commission européenne en France. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur à Sciences Po Paris. Vous avez publié en octobre dernier « Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen ». Il se trouve que vous connaissez très bien la Roumanie puisque vous avez grandi en Roumanie, c'est bien cela ?
Oui, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans.
Avant d'arriver en France pour y faire
mes études.
Vos études, vous avez donc la double nationalité. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent être avec nous, vous interroger, vous passez également via l'application France Inter. Adina Revol, vous rentrez de Roumanie, quelle est l'atmosphère politique sur place ? Est-ce que c'est un bras de fer auquel on assiste en ce moment avec donc cette nouvelle étape hier soir, Georgescu qui ne peut pas se présenter, on dit les autorités roumaines, à la prochaine élection présidentielle, le remake finalement qui doit avoir lieu au mois de mai.
Oui, je pense qu'il faut revenir aux faits parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sensationnalisme dans cette affaire, comme vous l'avez dit, inédite dans l'histoire de la démocratie européenne. Uh-huh. Alors, il faut voir que Poutine, en fait, a lancé une attaque en règle contre l'Union européenne à partir de la Roumanie. Et je m'explique. La Roumanie est un pays stratégique à l'est de l'Union européenne.
Frontalier de l'Ukraine.
Frontalier de l'Ukraine, mais la Roumanie est aussi devenue le premier producteur de gaz de l'Union européenne. Et la Roumanie, c'est un pays qui a payé le prix du sang pour sortir du communisme et donc sortir du pacte de Varsovie. Donc c'est un pays, en fait, qui est europhile. C'est un pays où il y a des bases de l'OTAN. Donc la plus grosse base de l'OTAN va être développée à Mihai Kogălnicianu, donc encore plus grosse que la base allemande à Ramstein. Donc c'est un pays stratégique. Or, en fait, en déstabilisant la Roumanie, Poutine veut aller plus loin. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il a ses affidés à Budapest, il a ses affidés aussi à Bratislava.
Donc ça, c'est Viktor Orban, le premier
Robert
ministre
Fico.
Hongrois, Robert Fico, qui est au pouvoir en Slovaquie.
En Slovaquie, et il faut rappeler d'ailleurs qu'en Slovaquie, le Kremlin a aussi aidé avec une vidéo qui était fausse, utilisée, faite par l'intelligence artificielle quelques jours avant les élections. On a très peu parlé de cet événement-là.
Mais et pour revenir au fait, Adina Revol, puisque c'est ce que vous prétendez faire, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre dernier
dernier, au moment de cette élection présidentielle. Et pour quelle raison Calin Georgescu a-t-il été empêché et son résultat invalidé par les autorités roumaines? C'est une tentative d'influence via le réseau social TikTok, c'est ça? Et à quel moment les Russes sont-ils intervenus ou seraient-ils intervenus?
C'est quelque chose finalement de très simple et très sophistiqué à la fois. Il y a eu une utilisation de TikTok en tant qu'arme, une arsenalisation de TikTok. Donc il y a une opération qui a été menée avec des micro-influenceurs et des macro-influenceurs qui ont été payés et qui ont diffusé sur les réseaux sociaux un film pour inciter à voter. Et sur ce film-là, donc anodin, il y avait un hashtag, donc des mots-clés, équilibre et verticalité. C'était le slogan de campagne de Calin Georgescu. Ensuite, intervient une armée de comptes automatiques, de 25 000 comptes automatiques qui utilisent TikTok donc pour promouvoir la campagne de Calin Georgescu avec le mot-clé Calin Georgescu.
Ça veut dire que le message, au lieu peut-être de passer inaperçu, il se retrouve en tête des tendances et donc il y a beaucoup de Roumains qui sont exposés à ce message.
Il faut savoir que TikTok, c'est le premier réseau social en Roumanie et donc ces influenceurs qui ont été manipulés, ils l'ont reconnu eux-mêmes et qui ont été payés alors que donc c'était contraire à la loi électorale roumaine.
Voilà, c'est ça qui est... Qu'est-ce qui est illégal finalement? C'est de diffuser des messages sur des réseaux sociaux. Tous les candidats font ça au fond, faire leur promotion sur les réseaux sociaux. Ou alors c'est payer des gens et ne pas le dire.
Et donc, le jugement de la Cour constitutionnelle du oui. mois de décembre a mis en avant le fait que le processus électoral a été vicié par cette utilisation de TikTok, ce financement massif qui est occulte, et parce que effectivement, ce Calin Georgescu est entouré par des mercenaires en provenance de Wagner et par des stars de la crypto-sphère. Donc, de l'argent sale qui est utilisé en Roumanie justement pour influencer et le vote. Et je rappelle juste...
Donc ça ne figurait pas dans les comptes de campagne?
Non, en fait. Parce que Calin Georgescu, il a déclaré 0 euro de compte de dépenses de campagne.
C'est ça qu'on lui reproche?
Exactement. Et j'ai fait un rappel historique. Vous savez, dans les années 45, la manipulation des élections a amené les soviétiques au pouvoir. À l'époque, il y avait l'armée rouge qui était présente justement pour inciter, pour manipuler ces élections. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont utilisés comme une arme.
Vous nous dites que c'est un pays qui est très europhile. Aujourd'hui, la Roumanie, il est quand même arrivé, Georgescu, en tête du premier tour de l'élection présidentielle en novembre, qui a ensuite été invalidée. Et là, les sondages lui donnaient 45% de soutien dans la population roumaine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement derrière Georgescu, ce candidat d'extrême droite, de rejet finalement de l'Union européenne en ce moment en Roumanie?
Non, il n'y a pas de rejet de l'Union européenne. Vous le savez, la démocratie roumaine, elle est jeune, elle est encore fragile, d'où le fait que c'est une proie encore plus facile. Je m'explique. Le communisme aujourd'hui n'est plus connu par les jeunes. La révolution a eu lieu en 89. Donc beaucoup de jeunes ont été influencés par TikTok et ils ont voté anti-système en fait, donc pour Calin Georgescu. Ils ne connaissent plus, la Roumanie a un problème, il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels, l'abandon scolaire est très fort, 15%. Et donc, il y a eu un sous-investissement dans l'éducation. Donc, il y a un problème d'éducation très fort. Après, il y a un problème de pouvoir d'achat. La crise énergétique a été ressentie très fort en Roumanie. Et en Roumanie, il y a...
Si le pays produit du gaz?
Tout à fait. Il y a eu... parce que l'inflation, en fait, a commencé... elle était déjà beaucoup plus forte avant le début de la crise. Et puis, la production du gaz s'est accélérée avec la crise en Ukraine. Donc, au moment même de la crise, en fait, la Roumanie était entre deux. Et donc, l'inflation a joué un rôle très important parce qu'il y a une forte perte de pouvoir d'achat.
Alors, ce qu'on a appris en novembre dernier, c'est ce que vous nous avez décrit à l'instant, Adina Revol, c'est-à-dire cette tentative d'influence via le réseau social TikTok avec des influenceurs qui n'avaient pas été déclarés par ce candidat. Et puis, la justice roumaine a continué à enquêter. Elle a mis au jour ces dernières semaines, finalement, une tentative de coup d'État qui s'annonçait avec un groupe paramilitaire. Et ça fait aussi penser au groupe Wagner, vous en avez parlé.
à l'œuvre en Russie et qui a été en partie démantelée, avec en Roumanie un homme qui s'appelle Horatiu Potra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce Horatiu Potra, qui était un homme clé dans ce dispositif?
Oui, Horatiu Potra est un homme clé, vous avez tout à fait raison. C'est un légionnaire franco-roumain, en fait. Donc, il est né dans une petite ville au cœur de la Transylvanie, à Mediaș, et il a ensuite servi dans la Légion étrangère. Et ensuite, il a créé des groupes paramilitaires liés à Wagner en Afrique.
Ils sont nombreux ?
Il a un groupe paramilitaire nombreux, effectivement, et il a été aussi lié au pouvoir chinois, par exemple. Il a aussi servi l'émir de Qatar et il est également lié à des hommes d'affaires qui sont très actifs dans la géopolitique des minerais. Et donc, Horatiu Potra, en fait, aujourd'hui, il est en fuite, puisque c'est lui qu'on a découvert l'arsenal de guerre la semaine dernière, ainsi que 3 millions de dollars. Et donc, aujourd'hui, il se trouverait à Dubaï. Mais hier soir, il était très actif, il a appelé à la violence, justement, ces groupements paramilitaires qui sont toujours actifs en Roumanie.
Ce que soupçonne la justice roumaine, c'est qu'au lendemain de l'éventuelle élection, si elle avait eu lieu en décembre dernier, de Georgescu, il y aurait eu quoi, un coup de force pour prendre le pouvoir, pour suspendre la démocratie roumaine? C'est ça les accusations finalement aujourd'hui qui sont formulées?
Călin Georgescu est inculpé justement pour tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel en Roumanie, qui est une des infractions les plus importantes du code pénal roumain. Et effectivement, Horatiu Potra, il avait des projets donc de prise de pouvoir de manière violente. L'arsenal qui a été trouvé chez lui, il est somme toute assez impressionnant.
Alors, vous avez parlé des influences russes sur le scrutin de novembre. Gérard est en ligne avec nous. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Du département de la Loire, question aussi sur les influences étrangères, Gérard.
Oui, voilà, l'influence de Trump. J'admire beaucoup votre spécialiste, elle est très claire. Est-ce que Trump est intervenu aux côtés de Poutine en Roumanie? Vous savez que Poutine est complice de Trump financièrement, hein, des millions de dollars depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, cette complicité, à mon avis, explique la situation actuelle, l'alignement de Trump sur Poutine. Est-ce que Trump est intervenu en Roumanie?
Merci Gérard pour cette question. Adina Revol vous répond.
Oui, vous avez raison. En fait, ce qui se passe en Roumanie, c'est, je dirais, le pays test de l'axe entre Vladimir Poutine et Trump. Et on le voit à travers l'activité d'Elon Musk sur Twitter, parce qu'Elon Musk est un soutien fort de Călin Georgescu.
Mais soutien dans quelle mesure? C'est-à-dire, on envoie un message sur le réseau social en disant « je te soutiens » ou bien il y a des conseillers qui font le déplacement ou il y a de l'argent qui circule? Qu'est-ce qu'on sait de ce lien précisément?
Bon, ce qu'on sait pour le moment, c'est que il a manifesté un soutien fort sur le réseau, sur son réseau social, en sachant que c'est le compte le plus suivi au monde. Et il pousse donc le lien entre Călin Georgescu et Elon Musk se fait à travers un influenceur très suivi sur X qui s'appelle Mario Naval, qui est l'animateur d'un show qui s'appelle Roundtable, qui est en fait le premier show sur X de journalistes citoyen, comme l'appelle Elon Musk. Et je fais une dernière explication, c'est que dans la politique américaine, on voit que la géopolitique des matières premières est essentielle, aussi bien pour le Canada, le Groenland et même l'Ukraine. Et donc, en Roumanie, il faut savoir que la Roumanie est un pays très riche en matières premières critiques pour la transition verte. Et Elon Musk, il en a besoin.
Pour parler des réactions américaines, le vice-président américain J.D. Vance a expliqué hier soir qu'au fond, la Roumanie et l'Union européenne étaient en train de confisquer la démocratie. Les Roumains ont porté un candidat en tête au premier tour. Bon, bah, la justice annule le scrutin. Qu'est-ce que vous faites de cet argument, Adina Revol? Le vol de l'élection, qu'on entend beaucoup depuis quelques jours de la part des soutiens de Georgescu.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le président de la Roumanie, ou tout candidat pour être président de la Roumanie, doit respecter la démocratie et l'ordre constitutionnel roumain. Or, Călin Georgescu, en utilisant TikTok, il a violé la démocratie roumaine, qui est basée sur des élections justes. Et donc, c'est cette violation, en fait, du droit électoral qui le disqualifie pour être président de la Roumanie, parce que pour être président de la Roumanie, il faut défendre la démocratie et l'ordre constitutionnel. Et lui, il a essayé justement de subminer les deux.
Question de Jean-Charles de Loire-Atlantique qui passe par l'application France Inter. Pouvez-vous clarifier les relations de la Roumanie avec l'Union européenne? La Roumanie se sent-elle soutenue par l'Union européenne dans cette affaire?
Oui, alors la Roumanie, c'est une question très intéressante, comme je disais. Si vous regardez les études d'opinion que l'Union européenne fait, qui s'appelle Eurobaromètre, la Roumanie est un des pays les plus europhiles. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, la France est parmi les derniers pays vis-à-vis de l'Union européenne.
Donc les sondages nous disent que les Roumains sont plus europhiles que les Français.
Exactement. La Roumanie est un état de droit, et dans cet état de droit, justement, il y a des règles, y compris des règles européennes, sur justement l'intégrité des élections, notamment dans l'espace numérique. On a au niveau européen une législation qui est très connue, j'imagine, le DSA, donc la loi sur les services numériques, qui demande aux plateformes de s'assurer de l'intégrité des élections. Or, ce qu'on a vu en Roumanie avec TikTok, c'est que les plateformes n'ont pas la capacité de s'assurer de l'intégrité des élections. Une enquête a été ouverte par la Commission européenne, on n'a pas encore les résultats.
Un dernier mot à Dina Revol, il nous reste une minute. Vous pensez que ces élections prévues au mois de mai vont pouvoir se tenir? Parce que hier soir, les partisans de Calin Georgescu ont manifesté à Bucarest. Ils vont sans doute poursuivre leur action.
Tout à fait, ils ont manifesté de manière très violente, donc certains de ses soutiens ont appelé au lynchage, un député même l'a fait. Moi, je suis convaincue que ces élections vont se tenir, mais la tentative d'ingérence étrangère n'est pas finie, puisque ce qu'on apprend de l'histoire, c'est que la Russie n'attaque jamais à travers un seul candidat. Il y a d'autres candidats, au moins trois, qui peuvent porter cette tentative d'ingérence étrangère en Roumanie. Et je rappelle, mon message clé, c'est qu'à travers la Roumanie, c'est l'unité européenne qu'on attaque, puisque l'Union européenne, si elle est divisée, l'Union européenne ne comptera pas plus dans les relations internationales.
Merci à Dina Revol d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14. Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen chez Odile Jacob, c'est votre dernier ouvrage, et je renvoie aussi à la longue enquête sur la revue Le Grand Continent, passionnante pour tout comprendre de ce qui est en train de se jouer actuellement en Roumanie. Merci à vous.
Merci à vous.
13h45 sur Inter. Une semaine dans la vie d'une prison. Nous sommes à Angers toute cette semaine. La maison d'arrêt, située en plein centre-ville, devrait fermer d'ici quelques années. Un nouvel établissement va être construit à une vingtaine de kilomètres, mais le projet est controversé. On verra ça dans les prochains jours. D'abord aujourd'hui, visite du vieux bâtiment. Il date de 1856. Pour y entrer, notre journaliste Sarah Guibaudot a demandé à la députée Ensemble, Nicole Dubré-Chira, de suivre une visite parlementaire.
Oui, très bien, vous pouvez rentrer.
D'accord, merci.
Oui, les établissements d'époque, voilà. Où effectivement c'est entièrement ouvert, c'est-à-dire que l'agent qui est sur le poste central voit ou entend au bout de n'importe quelle coursive, à n'importe quel étage. On n'est jamais très isolé sur ces anciens établissements.
Donc nous sommes avec Paloma Casado Torres, la directrice.
Vous avez donc les galeries ouest, nord et est pour un total d'à peu près 216 cellules. Et donc ce matin, nous avions 465 personnes hébergées, donc à peu près 215% de taux d'occupation.
Donc là, on rentre dans une coursive. Il y a un sas.
Bonjour. Bonjour, on vous dérange?
C'est pourquoi là en
oui.
fait
ben, c'est parce que moi je suis députée, donc j'ai le droit de visite dans les établissements pour constater. Visiteur. Voilà. Vous êtes là depuis combien de temps?
4 mois.
Donc on voit les 9 mètres carrés, l'écran télé suspendu dans le coin au-dessus du téléphone fixe, au-dessus d'une plaque de cuisson et d'un petit frigo. Et donc il y a 2 lits superposés.
Et s'il y a un matelas au sol, c'est exactement dans cet espace-là. Malgré que ce soit une structure dans laquelle on pourrait se demander si on va continuer à investir puisque ça a fermé, c'était une des premières où il a été installé des cabines téléphoniques en cellule.
Oui, sur des numéros ciblés quand même.
Oui, tout à fait. Donc on peut supposer qu'une partie des téléphones qu'on saisit au quotidien en détention, ça peut être pour continuer des trafics ou pour des communications dont ils espèrent qu'elles ne seront pas du coup interceptées. Il y a des programmations de fouilles, il y en a d'autres qui sont faites de manière aléatoire, parce qu'on va passer sur la coursive et il va y avoir des odeurs très prononcées et très connues de l'ensemble des personnels. On est en plein centre-ville, donc effectivement faire des projections depuis l'extérieur ou piloter un drone, c'est relativement facile et il a fallu qu'on s'adapte. Alors, ils ont droit à la douche un jour sur deux.
Il n'y a que deux agents sur la matinée, sur l'après-midi, là, sur la galerie. 160 détenus à peu près.
Quand bien même ils font tous les efforts du monde, être à deux ou à trois dans un petit espace avec à gérer la télé, etc. Évidemment que ça accroît les tensions. Après on y est très attentif. On peut demander, je sais pas si. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes de changement de cellule aujourd'hui?
Deux ou trois.
Et vous arrivez à faire des changements assez facilement compte tenu de la surpopulation là?
On fait mieux.
L'équipe d'encadrement ou d'officier, ils se voient le matin, l'après-midi, ils discutent des profils particuliers. Donc forcément, ils connaissent la population pénale. C'est un avantage par rapport à d'autres structures où c'est vraiment des bâtiments qui sont distincts et personne ne se côtoie, quoi.
Sarah Guibaudot pour ce feuilleton. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le lundi, nous sommes avec notre linguiste spécialiste du français de nos régions, Mathieu Avanzi. Mathieu qui s'intéresse aux mots du rugby aujourd'hui après la victoire française samedi en Irlande, la blessure au genou droit d'Antoine Dupont, et alors que les Français peuvent gagner samedi, Mathieu, le tournoi Destination.
Effectivement, Jérôme, le rugby, c'est un sport, mais c'est aussi une langue à part entière. Un idiome ovale, coloré, souvent rugueux, mais toujours expressif. On rentre dans la mêlée, on perce la défense, on joue au pied. Il arrive même qu'un joueur sorte le casque à pointe s'il n'est pas comparé à un bulldozer. Et puis, il y a l'anglais, évidemment, hein, omniprésent dans le lexique du rugby. Ruck, maul, drop, offload. Autant de termes techniques venus des collèges britanniques du 19e siècle et qui se sont parfaitement intégrés à la langue française.
D'où nous viennent toutes ces formules imagées?
Excellente question, Jérôme, on le voit bien, hein, la langue du rugby, c'est pas seulement du jargon technique, c'est un univers lexical à part entière, un univers qui est nourri de métaphores, de comparaisons et d'images populaires. Il suffit de regarder les expressions qui désignent un simple coup. Châtaigne, marron, poire, prune, et dans un registre plus technique, une cravate, c'est un plaquage au cou, une fourchette, c'est un coup de doigt dans les yeux. Pas une invitation à déjeuner, on est bien d'accord. Ce florilège s'explique tout simplement parce que coup est un terme générique et que ces variantes précisent le geste selon la partie du corps utilisée, mais aussi l'intensité, voire l'intention. On l'aura compris, le rugby aime les nuances, même quand ça tape fort. Et puis, ce qui fait le charme du parler de l'Ovalie, c'est sa capacité à faire image. Une passe ratée devient un saucisson. Marquer un essai, c'est aller en terre promise. Un regroupement de joueurs, on appelle ça une cocotte. Un ballon glissant, c'est une savonnette.
Et ce vocabulaire change, bien sûr, selon les régions. Dans le sud-ouest, par exemple.
Et en effet, rugby dans la langue française, c'est des accents et des variantes régionales. Tenez bien, le mot rugby, il ne va pas être prononcé de la même façon selon les régions. Dans le sud-ouest, berceau historique du ballon ovale, on entend très souvent rugby, sans le « ge » ou le « de », une prononciation adaptée aux règles phonétiques du français local, qui n'aime pas quand trop de consonnes se succèdent. Et puis, bah, c'est pas tout, le lexique de l'Ovalie regorge de termes régionaux. Dans le sud-ouest, un chipiron, c'est un petit calamar, mais sur le terrain, ça devient un coup bien senti. Même chose pour pigne, à l'origine une pomme de pin, mais on l'emploie pour nommer une bourrade. Sinon, je pourrais vous parler du mot chacaillé, passé dans le bordeluche, c'est comme ça qu'on appelle le parler de la région de Bordeaux, passé dans le bordeluche, donc par l'intermédiaire de l'occitan, et ça signifie agacé, provoqué. Maintenant, Jérôme, si je vous dis béchig, vous me dites...
Alors ça, c'est le terme qui désigne le ballon, mais vous pouvez peut-être nous dire d'où ça vient ?
Tout à fait, c'est un mot issu du gascon « béchigo » et ça correspond au français « vessie ». Parce qu'à l'époque, tenez-vous bien, on utilisait les vessies de porc pour fabriquer des ballons de rugby. Enfin, une dernière petite perle pour la route, faire la biscouette au rugby, c'est faire une feinte, une passe rusée qui déroute l'adversaire. Eh bien, sachez que dans le sud-ouest, « biscouette », c'est le nom d'un oiseau qui remue souvent la queue. Une manière bien imagée, encore une fois, de dire qu'on agite le terrain sans se faire attraper. En somme, Jérôme, que vous soyez pilier ou demi d'ouverture, supporter du 15 de France ou simplement amateur de belles langues, le rugby, c'est aussi une école du verbe. Une mêlée de mots, une troisième mi-temps où la langue se muscle autant que les épaules. Alors avant la grande finale de samedi, n'oubliez pas d'astiquer vos crampons et votre vocabulaire.
Merci Mathieu Avanzi pour ce C'est la France spécial rugby. C'est une chanson, c'est le chanteur bruxellois Noé Préchoff que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Il vient de faire paraître son deuxième album, un très très chouette album qu'il jouera demain sur la scène de l'Olympia. Et c'est une chanson interprétée par Catherine Ribeiro qu'il a souhaité que l'on écoute de la main gauche, une chanson qu'il a découverte à la fin de l'adolescence.
C'était en novembre 2012. Et je le sais, c'était le 15 novembre 2012 que j'ai entendu cette chanson. J'avais terminé l'école quelques mois avant, en juin. Je venais d'avoir donc 18 ans. Et je suis parti en Irlande travailler la terre.
Travailler la terre, travailler, ça voulait dire voir le monde ?
Ça voulait dire voir le monde et ça voulait dire travailler dans des fermes. J'avais passé une semaine en Irlande un peu plus jeune, ça m'avait marqué. Les paysages, la chaleur des gens. Et puis il y avait la musique irlandaise que j'aimais. Il y avait Renaud, qui m'a beaucoup accompagné dans mon enfance et qui parlait souvent de l'Irlande. Enfin, il y avait plein d'éléments qui faisaient que j'étais attiré par ça. Et puis, je suis parti pour l'Irlande avec mon sac sur le dos et ma guitare. Et je me souviens de la date parce que c'était la date de sortie de la chanson Memoria d'Indochine, un groupe qui a beaucoup accompagné ma vie et mon adolescence pour plein de raisons. Et donc, j'écoutais leur nouveau morceau et puis je suis resté comme ça sur Internet à passer d'une chanson à l'autre, à dériver, etc. Et tout d'un coup, j'ai vu sur YouTube un titre de la main gauche, Catherine Ribeiro. J'ai cliqué et puis ça m'a bouleversé.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires.
Cette chanson, Frédéric, est à l'origine d'une chanson de Daniel Messia.
Étoile filante de la scène française dans les années 80, morte d'une leucémie à l'âge de 28 ans. Mais c'est bien cette reprise par Catherine Ribeiro qui a été fondatrice pour Noé Préchoff.
En réalité, un de mes fantasmes en partant en Irlande, c'était... Ça peut paraître étrange, et je ne vais pas faire long là-dessus parce que c'est tout à fait nombriliste, mais que ce soit la réponse à toutes mes questions, le fait de donc travailler la terre et de travailler dans des fermes en Irlande, j'espérais... Par le côté physique, j'espérais que ça épuiserait mon envie de musique. Et donc même si j'étais parti avec ma guitare, j'avais ce fantasme naïf, enfantin, peu importe, de ne plus vouloir être chanteur. Et ça s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu cette chanson de la main gauche où je me suis dit en fait c'est ça. Ma seule mission, c'est ça.
Cette chanson, elle vous a donc conforté finalement dans votre décision de devenir chanteur, ce que vous voulez être depuis toujours ?
Absolument. Et en fait, cette chanson... de la main gauche, je pense que c'est une chanson qui vient me chercher à des moments précis de ma vie où j'ai besoin de me souvenir de mon propre chemin.
Je m'efforce de la terre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main.
Est-ce que vous diriez que cette chanson-là, c'est l'une des chansons de votre vie ?
Ah oui, oui. Et en même temps, la phrase qui me fait le plus d'effet dans la chanson, c'est quand elle dit « Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu d'adresse, rien qu'une fausse identité. » Il y a un mystère autour de ces quatre phrases qui correspond vraiment à quelque chose que je porte en moi. C'est-à-dire, moi forcément ça me fait penser à mon rapport au corps, à mon corps qui sans doute ne m'a pas facilité la tâche pour me faire entendre. Si je le dis, c'est que je l'ai ressenti, c'est que je l'ai vu dans les regards des autres, quoi. Mais une chanson comme celle-là, de la main gauche, c'est une chanson qui donne de la force et qui donne du courage pour avancer avec sa gueule, avec son corps, avec ses maladresses, quoi.
Je voulais dire que je t'aime, t'aime, parce que ça semble vrai.
De la main gauche. Par Catherine Ribeiro. C'était donc, Frédéric, le choix de Noé Préchoff.
Noé Préchoff qui sera demain soir à l'Olympia où il chantera le titre de son deuxième album, lequel s'appelle Préchoff.
Tout simplement. Merci Frédéric et à demain.